Docteur Jean-Luc Saladin, merci de nous rejoindre au micro de Sentez-vous bien. Je rappelle que vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Parmi ces 21 grandes causes, la nocivité des écrans. Alors, docteur Saladin, pouvez-vous nous aider à savoir comment nous devons utiliser, comment nous devons faire avec les écrans qui nous entourent au quotidien?
Parmi les règles de bon usage, eh bien, il y a l'usage modéré des écrans. Non pas que les écrans doivent être voués aux gémonies, mais il me semble qu'il faudrait utiliser les écrans de manière subsidiaire, c'est-à-dire, par exemple, si on fait un travail scientifique, s'en servir pour chercher des infos, parce que là, c'est un outil extraordinaire, mais une fois qu'on a fait sa pêche, en somme, vite, il faut imprimer ou se procurer le document de base, le livre référent, et puis là, faire un travail de lecture lent, cursive, linéaire, à l'ancienne. On ne peut pas faire autrement. C'est comme si je vous demandais, à partir de maintenant, de marcher sur les mains. Il y a des gens qui marchent sur les mains, mais il y en a quand même très peu, finalement, qui optent pour cette déambulation, si vous voulez.
C'est un peu plus difficile.
C'est la même chose avec les écrans, si vous voulez. Alors, il y a une troisième difficulté, c'est que on a du mal à rester concentré sur un écran. Avec les écrans, lorsqu'on fait défiler le texte ou qu'on change de page électronique, on observe un phénomène de cécité au changement, en anglais « change blindness », qui fait qu'on efface en partie la mémoire de l'image de la page qu'on vient de lire. L'attention décroche et on a peine à se souvenir de ce qu'on était en train de lire. Alors qu'avec un livre, on garde la mémoire, on a la continuité, on a une représentation spatiale. C'est tout le problème de l'espace. C'est-à-dire qu'avec un livre, on est en 3D, alors qu'avec un écran, on est en 2D et c'est toujours le même lieu. Donc, quand vous changez de page avec un écran, c'est physiologique. Il y a le change blindness qui arrive. C'est-à-dire que vous pouvez pas... Comme la page que vous venez de lire a disparu, votre esprit croit qu'elle n'existe plus. Voyez ? Alors que quand vous lisez un livre, votre esprit sait qu'elle existe toujours. Et là, c'est physiologique, c'est comme, si vous voulez, décider que j'aurais beau vous mettre du sucré sur la langue en vous disant que c'est salé, vous allez avoir du mal, vous voyez, c'est physiologique. L'homme veut toujours s'affranchir des lois de la nature. Il y a une espèce de structure dans son cerveau qui est très étrange, qui n'a pas que des inconvénients, ça lui fait poser tout un tas d'hypothèses. Mais il faut que quand il pose des hypothèses, qui s'avère erroné, il faut qu'il sache s'en débarrasser. Alors, il y a une quatrième cause. Il y a des difficultés à assimiler ce qui est lu. Les liens hypertextes, les commentaires audio, les vidéos qui accompagnent les textes qu'on trouve sur les écrans viennent compliquer la tâche du lecteur qui peut très vite se retrouver en désorientation cognitive. Le sujet finit souvent par éprouver des difficultés à se repérer dans l'architecture globale du document et à comprendre les relations unissant ces différentes parties. Le sujet finit par perdre l'objectif de sa lecture. D'après les experts, ça fait perdre 30% de la force de travail. Une expérience a montré que la lecture hypertexte est facilitée si le sujet a dû lire d'abord le texte de manière linéaire, conformément à l'enchaînement conceptuel voulu par l'auteur. La lecture linéaire classique a l'avantage de reposer le cerveau, qui n'a qu'à faire une chose, comprendre ce qu'il lit et l'enchaînement de la pensée de l'auteur. La multiplicité des sources engendre une saturation de la mémoire de travail, dont on sait que les capacités sont limitées, ce qui est corroboré par les expériences qui montrent une nette diminution de la mémorisation des documents sur écran.
Et ça veut dire que cette difficulté, finalement, à assimiler ce qu'on lit sur un écran, elle n'est valable que dans ce contexte-là. Ça n'a pas de répercussion par la suite dans d'autres approches. Ça veut dire que ça n'altère pas d'une manière définitive notre manière d'appréhender les choses.
Si vous voulez, la mémoire, elle est centrale dans la vie mentale de l'homme. C'est-à-dire que si vous n'avez rien dans la mémoire, vous savez que la mémoire est un processus actif, c'est pas un disque dur inerte. C'est-à-dire que ce que vous avez mis dans votre mémoire, ça va travailler, ça va donner du fruit. En particulier si vous avez un bon sommeil. C'est pendant le sommeil que naissent les idées, que la créativité travaille en automatique. Nous avons en somme un module dans le cerveau de automatique de création de sens et de créativité, mais qui travaille tout seul. Ça, oui. C'est comme du jardinage. Il faut juste planter la graine au bon moment, la bonne graine au bon moment, au bon endroit, l'arroser, prévoir l'ensoleillement, et puis après ça donne tout seul. C'est ça le cerveau. Et si vous mettez rien dans le cerveau, c'est-à-dire si vous mettez pas de graines dans la terre, ben non, vous n'aurez pas de fruits. Hein.
D'accord, donc ça a un impact quand même.
Ah ben oui, je pense.
Des impacts collatéraux.
Ah ben oui, si vous voulez, nous, moi, dans les 21 grandes causes de troubles du comportement et des apprentissages, pour moi, les écrans font partie des causes qui expliquent un certain nombre d'échecs scolaires, la baisse du niveau scolaire. Oui, oui.
Docteur Saladin, merci pour votre présence à ce micro. Je vous rappelle que vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. À bientôt, au revoir.